Bernard Le Léanec, en 1989, vous êtes envoyé en Russie par le journal La Croix. Vous pouvez nous raconter les circonstances ?
Oui, j'étais journaliste depuis 10 ans et j'ai dû accompagner le cardinal Lustiger qui participait aux fêtes du millénaire de la Rousse, invité par le patriarcat de Moscou. Je faisais partie d'un groupe de journalistes. Lorsque l'idée m'est venue de passer une année sabbatique en Russie, je me suis ouvert au cardinal de cette intention et le cardinal m'a dit « je vous appuie et je vous y encourage ». Il a parlé aux autorités du patriarcat de ce projet et après avoir frappé à plusieurs portes, nous avons trouvé la bonne qui était de frapper à la porte du métropolite Philaret de Minsk qui était chargé des relations extérieures du patriarcat. Et le métropolite Philaret m'a dit « Mon père, vous n'êtes pas sans savoir que de tels projets se passent dans le cadre des relations bilatérales de nos églises et donc il vous faut avoir l'assentiment des autorités romaines pour pouvoir mener à bien votre projet. » Et si bien que ça a duré quelques mois pour que je me rende ici à Rome et demande la bénédiction du responsable du secrétariat pour l'unité des chrétiens qui avait comme secrétaire Mgr Pierre Dupré. Et c'est Mgr Pierre Dupré qui a appuyé cette initiative et qui l'a encouragé. À ce moment-là, des portes s'entrouvraient et je me suis enfilé par cette porte qui s'entrouvait.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous a habité pendant des années ? C'était un rêve ?
Oui, comme assomptionniste, j'avais épousé la cause de l'unité à la manière assomptionniste.
C'est quoi la manière assomptionniste ?
Notre fondateur a beaucoup rêvé durant les 10 dernières années de sa vie, c'est-à-dire depuis sa participation au premier concile Vatican en 1870 jusqu'à sa mort en 1880, à la Russie, parce que le pape de l'époque comptait sur lui pour établir une relation avec le monde oriental. Nous étions en Orient depuis 1862-1863, nous fêtons cette année le 150e anniversaire de notre mission en Orient, et j'aspirais à ce que le fondateur avait mis un petit peu dans mon esprit de jeune religieux. Il disait avec des mots assez bouleversants, « Mes frères, je le dis en tremblant, la Russie vous ouvrira ses portes, dussiez-vous engraisser les gonds de votre sang ?» Et ces phrases m'ont frappé, surtout que dans ma jeunesse, j'avais rencontré quelqu'un, un père qui avait été prisonnier, le père Judicaël Nicolas, un breton. Il avait passé 11 ans au goulag, il avait écrit bien avant Solzhenitsyn, La vie au goulag, et il avait intitulé son livre, paru vers la fin des années 50, 11 ans au paradis. Bien sûr, lorsque j'ai fait sa connaissance, j'ai été bouleversé par son témoignage de religieux, de prêtre, de missionnaire, et sa découverte du monde russe. Au cours de mes 20 années de vie en Russie, j'ai pu apprécier et découvrir ce que l'on appelle vulgairement l'âme russe, son goût pour les arts, la musique, la spiritualité.
Alors vous êtes resté donc presque 20 ans à Moscou dans la paroisse, oui, Saint-Louis des Français.
J'ai passé ma première année donc à l'invitation de l'Église orthodoxe russe dans ce qui est le cœur de l'Église russe, à savoir cette sorte de Vatican russe pour cette Église et qui est le monastère de la Trinité Saint-Serge, un lieu historique, un lieu spirituel pour tous les Russes orthodoxes. Et donc, j'ai appris à parler, à connaître la Russie à partir de ce lieu tout à fait privilégié.
Alors, vous dites, vous avez appris à connaître, à parler le russe, à connaître la Russie. Quels sont les aspects de la Russie et de la Russie orthodoxe aujourd'hui qui vous semblent très importants à transmettre, à nous faire connaître ?
Je dirais que c'est son patrimoine spirituel qui est essentiel et qui est conservé en Russie, sa tradition liturgique, son goût pour la musique liturgique, la pratique religieuse, non seulement formelle, mais aussi dans tous ses aspects tels que les ont vécu les moines russes et qui sont relatés dans l'expérience des pèlerins russes, et puis de tous ces spirituels qui ont hérité de la spiritualité orientale séculaire. ils sont imprégnés de la philokalie, de l'amour de la beauté. Quand vous entrez dans une église russe, vous êtes saisi physiquement par ce qui se passe autour de vous. L'odorat est sollicité par l'encens, les yeux par la lumière des icônes et la lumière des bougies. Cette lumière est pénombre à la fois.
Que faisiez-vous dans cette paroisse catholique au cœur de l'orthodoxie? Vous étiez donc le curé, mais j'imagine qu'être le curé à Moscou au sein de l'orthodoxie, c'est quand même pas la même chose que d'être dans une autre ville du monde.
J'ai pensé à votre question, je me disais comme ça que l'œcuménisme se vit à différents niveaux. Vous avez le niveau officiel, c'est le dialogue de la charité. Vous avez le niveau du dialogue théologique, c'est le dialogue de la vérité. Vous avez la semaine de prière pour l'unité de chrétiens, qui est le dialogue spirituel. Et puis, vous avez la présence pastorale, c'est le dialogue du quotidien, c'est le dialogue de la vie ménagère de l'Église. C'est à ce niveau que j'ai vécu mon expérience, qui était fort modeste. J'aime bien ces mots du poète qui dit que la vie simple et facile est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour. La vie pastorale que j'ai menée était une vie tout à fait simple, avec beaucoup d'improvisation, avec beaucoup de disponibilité. Et c'est ce que j'ai essayé de mener pendant ces années, vivant les joies et puis aussi les difficultés que pouvait représenter cette présence.
Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, il faudrait que je vous décrive l'endroit où se trouve l'église Saint-Louis des Français à Moscou. Tout d'abord, c'est une église qui n'a pas été fermée, qui restait toujours ouverte pendant la période soviétique, qui était une lumière d'espérance pour tous les croyants en Russie. Mais elle était entourée des bâtiments du KGB et du GPU. C'est tous les services secrets qui entouraient une pauvre petite église qui est entourée de grands immeubles.
C'est très symbolique.
Tout petit, tout à fait symbolique. Que la présence au tabernacle se soit toujours pérennisée à travers toutes les vicissitudes qu'a connues ce pays.
Quelles sont les autres difficultés que vous avez vécues?
Il y a eu pendant la première décennie une période d'enthousiasme. Les relations semblaient connaître une embellie qui n'aurait pas de fin et qui se terminerait sans doute par une plus grande communion entre les deux églises. Et au fur et à mesure que les événements politiques se succédaient, on a vu aussi se succéder des incompréhensions. Vous savez, la guerre froide a donné suite à une sorte de dégel. Quand une rivière est gelée, à la suite de son dégel, on appelle cela la débâcle. Et bien, je pense que sur le plan œcuménique, on a eu un petit peu le même phénomène où il y a eu, durant la première décennie, je parle des années 90 à l'an 2000, une sorte d'initiative, de volonté de dialogue, de spontanéité entre catholiques et orthodoxes. Beaucoup d'orthodoxes, par exemple, ont participé à des visites du pape en Europe de l'Est, ont participé à des rencontres de Thésée, venaient spontanément dans une église catholique. Puis un certain nombre d'initiatives réciproques, d'ailleurs, ont suscité chez certaines personnes un repli identitaire. Par exemple, lorsque des diocèses ont été créés en Russie au début des années 2000, il y a eu la réaffirmation d'une identité orthodoxe très ferme qui correspondait, je pense, aussi à une volonté politique de renaissance de la Russie. Les choses vont de pair, la volonté de développement économique, d'affirmation politique et puis d'identité religieuse. Mais je ne veux pas désespérer que suivra chez les uns et chez les autres, après une période, je dirais, de pionniers et d'aventuriers, qui se retrouve une période de sérénité qui donnera au dialogue entre chrétiens orthodoxes et chrétiens catholiques un partage de leurs valeurs communes, de leur richesse spirituelle qui sera prometteur pour l'avenir.
Bernard Le Laennec, vous avez vécu presque 20 ans à Moscou dans une atmosphère orthodoxe en tant que chrétien catholique. Qu'est-ce qui a été transformé? J'imagine qu'il y a au niveau de votre foi des points qui ne sont plus les mêmes, une façon de croire peut-être qui a été changé?
Un jour que je me trouvais à la Laure et que j'avais à la Laure de la Trinité Saint-Serge et que j'avais établi des relations très amicales avec quelques amis orthodoxes, l'un d'entre eux me dit comme ça: mais Bernard, mais pourquoi tu ne deviendrais pas orthodoxe? Tu es très ouvert à tout ce qui correspond à notre sensibilité. Et j'ai eu cette réponse que j'étais né catholique, que je mourrais sans doute catholique, mais que mon cœur était orthodoxe et le resterait. Je crois que c'est cette prière du cœur que je pratique encore aujourd'hui et ce cœur à cœur avec l'Église de Russie qui m'a transformé, qui m'a converti. On ne peut pas se changer si on ne connaît pas l'autre, si on n'établit pas avec l'autre une relation de cœur à cœur. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux vous donner en concluant sur les paroles de Platon de Kiev, ce grand métropolite qui est repris par Paul Couturier, qui est l'homme vraiment de la Semaine de l'Unité, ce prêtre lyonnais, et qui disait que les murs de la séparation ne vont pas jusqu'au ciel.